Bruxelles. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde Aujourd'hui, édition du mardi 1er avril 2014, en direct du studio 13 à Washington. Au micro, Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil. Bonsoir Chérubin.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Au sommaire ce soir, arrestation massive au Kenya suite à un triple attentat qui a fait au moins 6 morts.
Selon le ministre de l'Intérieur, Joseph Olelenku, 657 suspects ont été arrêtés. Il a qualifié ce triple attentat d'acte lâche et barbare.
Ebola en Guinée, déjà 80 morts, mais selon l'OMS, la maladie n'a pas atteint de proportions épidémiques. En RCA, un responsable des anti-Balaka annonce que son gouvernement ne va plus intervenir dans des incidents impliquant les soldats de la MISCA. Rentrée parlementaire au Nord Kivu en RDC, la population formule ses attentes.
Nous attendons un travail très sérieux au compte de la population, notamment les infrastructures de base.
Reportage à suivre de notre correspondant sur place à Goma. Dossier Ukraine, l'OTAN suspend la coopération civile et militaire avec la Russie, sans oublier nos pages sport et musique. Mais avant, le journal.
La police kényane a arrêté plus de 650 personnes en 24 heures au lendemain du triple attentat qui a fait au moins 6 morts et une trentaine de blessés à Nairobi. Le point avec Idriss Fall.
Selon le ministre de l'Intérieur, Joseph Olelenku, 657 suspects ont été arrêtés. Il a qualifié ce triple attentat d'acte lâche et barbare contre d'innocents Kenyans. Lundi soir, trois explosions quasi simultanées ont visé deux restaurants et une clinique dans le quartier surnommé Petit Mogadiscio à Nairobi. Ces attentats n'ont pas été revendiqués. Mais ce triple attentat survient une semaine après l'attaque par des hommes armés contre une église en périphérie de Mombasa, la deuxième ville du pays. Des assaillants non identifiés ont ouvert le feu sur les fidèles durant le service dominical, tuant 6 personnes. Après cette attaque, le Kenya a ordonné à tous les réfugiés somaliens présents sur son territoire de rejoindre immédiatement un des deux camps surpeuplés qui leur sont réservés. Ce geste a été critiqué par les Nations Unies. Le Kenya a été touché par une série d'attaques meurtrières depuis qu'il a envoyé en octobre 2011 ses troupes combattre les islamistes en Somalie voisine. Les Chebabs somaliens avaient revendiqué en septembre dernier l'assaut contre le centre commercial Westgate de Nairobi qui avait coûté la vie à au moins 67 personnes.
Attentat suicide au Nigeria, la cible était un poste de contrôle de l'armée à Maïdougouri, capitale de l'état de Borno. Le bilan est inconnu pour l'instant. Selon un témoin interrogé par le service Hausa de la Voix de l'Amérique, il y a eu trois explosions consécutives, dont deux voitures piégées aux environs de 14 heures, heure locale. Une bombe placée dans un autre véhicule n'a pas explosé, semble-t-il, mais le chauffeur est descendu et s'est mis à tirer à l'aveuglette sur les gens. On compte des civils et des militaires parmi les morts. L'armée a bouclé la zone. Pour le commissaire de police de Borno, l'auteur de l'attaque semble être Boko Haram. Ce groupe est blâmé pour des milliers de morts depuis 2009, dont 1500 rien que durant les trois derniers mois.
En Guinée, la propagation de l'Ebola n'a pas atteint les proportions épidémiques selon l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS fait état de 80 morts, tout en reconnaissant la gravité de la situation. Elle souligne que ces chiffres sont relativement faibles comparés aux épidémies qui avaient frappé l'Ouganda et la RDC en 2000 et 2001. L'Organisation mondiale de la santé affirme par ailleurs que la maladie ne s'est pas propagée dans les pays voisins.
Les 7 cas suspects d'Ebola, dont 4 décès au Libéria, sont survenus chez les Libériens qui ont voyagé en Guinée, souligne-t-elle. L'OMS ne recommande d'ailleurs pas de restrictions sur les voyages. Le Sénégal a pourtant fermé sa frontière avec la Guinée. Réaction de Rémi Lama, ministre guinéen de la Santé.
On a condamné, il y a l'OMS qui a émis dans ce sens un règlement de santé internationale qui interdit les restrictions des déplacements des personnes par rapport à une telle situation. Parce que c'est la même population. Certes, géographiquement, nous sommes séparés, mais ce sont les mêmes populations. Vous voyez aujourd'hui, au Libéria, sur 8 échantillons qu'ils ont envoyés en Guinée pour l'examen, il y a eu des cas positifs. Ce sont les mêmes populations qui se déplacent l'une vers l'autre. Restreindre ou empêcher et les Guinéens allaient vers le Sénégal ou vice-versa, moi je me dis que ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est que vraiment que les gens procèdent à la sensibilisation de part et d'autre pour pouvoir rompre la chaîne de contamination et dire aux populations, dès que vous ressentiez des cas de fièvre, adressez-vous aux personnes de santé. Et sur ce, en Guinée, on a mis en circulation 3 numéros verts. Donc dès qu'il y a un cas suspect signalé, on appelle le numéro vert, le 115, vous composez et vous tomberez sur un des membres de la commission qui tout de suite va se rendre sur le lieu et avec la Croix-Rouge et les autres membres de la commission, tout de suite le patient est recherché et convoyé vers un centre de traitement.
Rémi Lama, ministre guinéen de la Santé.
En République centrafricaine, la vie a repris son cours dans les quartiers nord de Bangui après les incidents du week-end impliquant des éléments tchadiens de la MISCA et des hommes armés qui avaient fait une trentaine de morts dans les quartiers PK12 et Gobongo. Écoutons les précisions de Timothée Donangmaï.
Mise en cause par le chef des forces de la MISCA, le général Martin Toumenta Chomou, qui les a accusés d'avoir attaqué des éléments tchadiens de la MISCA, les miliciens anti-Balaka ont réagi aujourd'hui par la voix de leur coordonnateur, Patrice-Édouard Ngaïsona. Ce dernier a démenti toute présence de ces éléments dans les quartiers où ont eu lieu les incidents du week-end. Patrice-Édouard Ngaïsona a fait savoir que les miliciens anti-Balaka éviteront désormais de réagir à des situations impliquant des troupes de la MISCA et laisseront au gouvernement intérimaire la responsabilité d'assurer la sécurité des Centrafricains. Le coordonnateur des milices anti-Balaka a aussi fait savoir que son groupe approchera la société civile pour qu'une enquête soit ouverte au sujet des incidents du week-end au PK12 et à Gobongo. Lors d'un point de presse aujourd'hui, le premier ministre intérimaire centrafricain André Nzapayeke a de son côté expliqué que ces incidents ont été provoqués par les anti-Balaka qui s'en étaient pris à des soldats tchadiens, entraînant une riposte de ces derniers.
Deux policiers condamnés à 7 ans de prison pour viol en Tunisie, Morgane.
Le jugement est tombé hier soir à huis clos. Les victimes se disent déçues par la sentence, sachant qu'en Tunisie, un violeur encourt jusqu'à la peine de mort. Un troisième policier condamné pour extorsion est coupé de 2 années d'enfermement. Les faits remontent à septembre 2012. Des policiers interpellent un couple dans une voiture et les accusent d'attentat à la pudeur. L'un d'eux conduit l'homme au distributeur pour lui faire retirer un bakchiche, pendant que les deux autres violent sa petite amie. Un scandale qui a déclenché une forte mobilisation d'associations rassemblées hier devant le tribunal. Les agents nient le viol. La victime compte bien faire appel.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN à Bruxelles, ils ont décidé de suspendre la coopération civile et militaire avec la Russie, une mesure prise en raison de la crise ukrainienne et l'annexion de la Crimée par Moscou. Le compte-rendu d'Idrissa Seloudia.
Le dialogue politique avec Moscou se poursuivra, mais les ministres soulignent qu'ils ne reconnaissent pas la tentative illégale et illégitime d'annexer la Crimée et ils ont exhorté la Russie à prendre des mesures immédiates pour un retour au respect du droit international. Ils se sont par ailleurs engagés à intensifier la coopération avec l'Ukraine pour renforcer ses capacités à assurer sa propre sécurité. Auparavant, la Russie avait mis en garde l'Ukraine contre tout rapprochement avec l'OTAN, disant que de précédentes tentatives de ce genre n'avaient eu que des conséquences négatives, soit un gel des contacts politiques russo-ukrainiens, des maux de tête entre l'OTAN et la Russie et des divisions internes en Ukraine. D'autre part, Moscou a accentué la pression économique sur Kiev. Sa compagnie de gaz naturel, Gazprom, a augmenté de plus de 40% le prix de son gaz à l'Ukraine. Mais on s'attend à ce que de nouveaux prêts du FMI aident à amortir le choc.
En Syrie, cela fait plus de 3 ans que le conflit a débuté et le bilan est terrible puisque environ 150 000 personnes sont mortes depuis mars 2011, selon les chiffres communiqués par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Nicolas Pinault.
Et sans surprise, les civils payent un lourd tribut dans cette crise. L'OSDH estime que plus d'un tiers des victimes sont des civils, dont près de 8 000 enfants. Depuis le début des combats en 2011, l'ONG basée à Londres recense également la mort de plus de 37 000 combattants de l'opposition, dont des djihadistes du front al-Nosra et de l'État islamique en Irak et au Levant. Les fidèles de Bachar el-Assad ont aussi payé le prix du soutien à l'homme fort de Damas, puisque 58 000 d'entre eux ont péri, dont 35 000 soldats du régime et 364 combattants du mouvement chiite du Hezbollah. Malgré une médiation, rien ne semble pouvoir mettre un terme au conflit syrien. Les pays arabes sont divisés, tout comme le Conseil de sécurité de l'ONU, où Russes et Américains s'opposent.
Les négociations israélo-palestiniennes pourraient connaître bientôt un dénouement positif. Un accord serait en vue pour étendre les pourparlers jusqu'en 2015 et comprendrait, entre autres clauses, la libération d'un Américain condamné comme espion israélien, la libération de plusieurs centaines de prisonniers palestiniens et le gel partiel de la construction de colonies juives en Cisjordanie. Le secrétaire d'État américain John Kerry et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ont élaboré les détails de ce plan aujourd'hui. John Kerry, qui a déjà rencontré les négociateurs palestiniens, sera de retour à Ramallah demain.
En Thaïlande, des hommes non identifiés ont ouvert le feu sur des manifestants anti-gouvernementaux, faisant un mort et quatre blessés aujourd'hui à Bangkok. C'est le dernier acte de violence politique en Thaïlande depuis le début de la contestation en novembre dernier. 24 personnes sont mortes et des centaines d'autres blessées durant cette campagne. L'opposition accuse le Premier ministre Yingluck Shinawatra de corruption et réclame sa démission.
Un drone non identifié s'est écrasé sur une île en Corée du Sud, près de la frontière maritime avec la Corée du Nord. Le tracé de cette frontière est disputé par les deux voisins. Les débris de l'appareil téléguidé ont été découverts aujourd'hui à Baengnyeong, juste au sud de la frontière. Le drone endommagé a été récupéré pour analyse, indique-t-on au ministère de la Défense à Séoul. On ne sait pas si le drone appartenait à la Corée du Nord.
La CIA a trompé le public américain depuis des années sur son programme, maintenant aboli, d'interrogation musclée de terroristes présumés. C'est ce qu'affirme le quotidien Washington Post, citant un rapport du Congrès. Selon le journal, la commission de renseignement du Sénat américain a conclu que l'agence d'espionnage a prétendu, à tort, que le programme avait permis d'obtenir des informations crédibles qui ont empêché de futures attaques terroristes. Le rapport indique que les agents de la CIA avait obtenu de précieuses informations auprès des détenus avant même de les soumettre à des techniques d'interrogation dure. Le rapport de 6300 pages indique aussi que la CIA n'a pas révélé aux membres du Congrès les détails relatifs à la gravité de telles méthodes.
Enfin, toujours ici aux États-Unis, un lycéen d'origine ghanéenne vient d'être admis dans toutes les universités les plus prestigieuses du pays, ce qu'on appelle l'Ivy League. Il s'agit d'un exploit extrêmement rare, Morgane.
Oui, il faut dire que l'Ivy League rassemble 8 universités particulièrement sélectives, telles que Harvard, Princeton et Yale. Leur taux d'admission est inférieur à 6%. Kwasi Enin, qui souhaite devenir médecin, a posé sa candidature dans les 8 écoles dans l'espoir d'être accueilli dans au moins une. Âgé de 17 ans, il a désormais l'embarras du choix puisqu'elles ont toutes accepté son dossier. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. Au micro, Morgane Diriec et Chérubin Dorsil. République démocratique du Congo, rentrée parlementaire au Nord-Kivu. La population devient de plus en plus exigeante envers les élus.
Quelques habitants de Goma ont formulé à La Voix de l'Amérique leurs attentes par rapport à cette nouvelle session ordinaire. Reportage de notre correspondant Primo Pascal Rudahigua.
Les habitants de Goma exigent que les élus provinciaux traitent durant cette session des problèmes qui concernent directement leurs électeurs.
Nous attendons un travail très sérieux au compte de la population, notamment les infrastructures de base. Et là, moi, je voudrais parler les routes, l'eau également, l'électricité. Et donc, si vous sillonnez ça et là, de bonnes heures, très tôt au matin, vous allez trouver nos mamans, nos petites filles en train de sillonner ça et là avec des bidons. Nos routes ne sont pas vraiment en bon état. Et avec tous ces problèmes-là, moi, je pense que nous devons attendre d'eux une certaine défense qu'ils pourront faire.
Ils vont même plus loin, ces habitants qui exigent de cette session des problèmes qui concernent le développement des entités minières.
Ils peuvent parler des routes à vocation minière comme la route Goma-Walikale, Goma-Massissi, afin que nous puissions évacuer nos minerais, par exemple, jusqu'au niveau d'ici, afin qu'on puisse les traiter.
S'agissant des routes, le président de l'organe délibérant du Nord Kivu, Jules Hakizumami, a dit dans son discours d'ouverture de la session que cette préoccupation est reprise parmi les matières à traiter.
La population de Goma et ses périphéries immédiates, représentées par les honorables députés provinciaux, aimeraient savoir à quand les débits effectifs des travaux, car aucun autre signe visible ne semble avoir été perçu après la cérémonie du lancement des travaux. Les machines sont-elles en panne sèche avant que les travaux ne démarrent? Comme on peut le constater, chers compatriotes, toutes ces questions mériteraient de faire l'objet de matières à discuter au cours de cette session afin d'éclairer la lanterne de nos électeurs.
Les problèmes sécuritaires sont repris aussi dans l'agenda du président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu.
Le territoire de Rutshuru, au Nord Kivu, est de nouveau envahi par l'armée ougandaise IPDF. Depuis mercredi 26 mars 2014, les hommes de troupes de l'IPDF occupent d'importantes collines du village Sarambwe, en localité Kisharu, dans le groupement de Binza, à cheval avec le groupement de Busanza, en chefferie de Bouisha, à plus ou moins 2 km de la frontière congolo-ougandaise. Il faudra que les pays qui nous entourent comprennent que pour le moment, les FARDC ne sont plus prêts à donner la joue gauche à l'ennemi, comme ce fut dans les beaux vieux temps.
Il s'agit là des discours, il reste maintenant à voir comment tout cela sera mis en application. Goma, Primo Pascal Rudahigwa, La Voix de l'Amérique.
Au Sénégal, la dépénalisation des délits de presse va devoir attendre. Cela fait 5 ans que le projet d'un nouveau code de la presse est sur le bureau de l'Assemblée nationale, sans avoir été soumis au vote. Les syndicats de journalistes ont interpellé les députés sénégalais pour son adoption, mais hier, le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale a dit non. Écoutons Moustapha Diakaté, président du groupe parlementaire Beno Bok Yakar.
J'ai répondu en tant que président de groupe, notamment du groupe de la majorité, pour leur dire ceci. Pour ce qui est des questions de diffamation, d'injures, de fausses informations, d'outrage, de discrimination raciale, de haine religieuse ou ethnique, il n'est pas question de dépénaliser les délits de presse. Pour nous, pénaliser ces types de délits, ces infractions, pour les journalistes, c'est engendrer une inégalité des Sénégalais devant la loi. Parce que si quelqu'un insulte sur la voie publique, évidemment, si vous êtes allé au tribunal, il peut être condamné. Alors pourquoi on permettrait à un journaliste, lui, de diffamer ou d'insulter dans un article de presse et qu'il ne soit pas sanctionné. L'autre chose aussi, dépénaliser et déprisonnaliser, c'est remettre en cause le principe de la généralité et de l'impersonnalité de la loi. Nous pensons que les journalistes sénégalais doivent revoir leur position. À partir de ce moment, le dialogue peut être posé. Moi, j'ai dit que, par exemple, pour ce qui est de la diffamation, lorsque un journaliste relève les propos diffamatoires de quelqu'un, mais c'est cette personne-là qui doit être l'auteur principal et non le journaliste. Je crois qu'on peut discuter, voir les moyens pour faire de telle sorte qu'en tout cas, les journalistes soient protégés, la liberté de presse soit protégée, mais qu'il n'y ait pas comme une loi qu'on applique à une catégorie de citoyens, ou une loi qu'on n'applique pas à une autre catégorie de citoyens. Ça va poser un principe d'égalité des Sénégalais devant la loi, et ça, nous ne pouvons pas l'accepter.
Moustapha Diakaté, président du groupe parlementaire Beno Bok Yakar. Il faut dire aussi que beaucoup de journalistes sénégalais prêtent le flanc avec des manquements évidents à la déontologie. Mbaye Sidi Mbaye enseigne le journalisme au CESTI à Dakar.
Mais c'est surtout ça le problème et c'est surtout ça le point sur lequel les députés insistent. C'est vrai que nous avons énormément de problèmes aujourd'hui. Des journalistes qui peut-être ne savent pas ce qu'est la déontologie, ou qui disent comme ils veulent, qui écrivent comme ils veulent. Et ça, c'est un point faible pour la presse. Et les députés sont là, personne ne peut les obliger à voter une loi. Donc, je crois qu'il faut que le CORED, qui a remplacé le CRED, je pense que cet organe devrait jouer son rôle très clairement. Le Syntex aussi, qui est le syndicat des journalistes, devrait jouer son rôle très clairement en ne faisant pas simplement fonction d'ombrelle pour la presse, mais également de sensibilisateur, de réveilleur de conscience des journalistes, parce que sinon, vraiment, les députés sont fondés à dire pourquoi leur donner encore cette espèce d'impunité devant la loi.
Voilà, c'était le professeur Mbaye Sidi Mbaye au micro d'Idriss Fall.
En Côte d'Ivoire, le festival des musiques urbaines Anou Mabo, Fais-moi, une manifestation du groupe ivoirien Magic System, débute ce mardi à Abidjan. Les organisateurs renouvellent l'expérience des scènes éclatées sur fond de réconciliation nationale. Jean-Roger Billon nous en parle.
Cette année, le FEMUA va à la rencontre des habitants du quartier de Yopougon Pour Assal Faux, le promoteur, le festival ne quitte pas Anoumabo son lieu de naissance.
Il n'a pas été déplacé à Yopougon. Il a été simplement décentralisé. En fait. On s'est dit que ce n'est pas seulement Anoumabo qui devait bénéficier. L'année dernière, on l'a fait à Bobo, ça s'était bien passé. Et cette année, on va le faire à Yopougon. Pour dire que le FEMLA est peut partir aussi hors d'Anoumabo. Mais Anoumabo garde toujours sa scène principale.
Le festival créé en 2008 réunit pour cette édition des artistes de renommée internationale, des artistes venus du Botswana et même du Liban. Le FEMLA 2014 est tout dédié à la décrispation politique en Côte d'Ivoire.
C'est par la culture qu'on peut amener le peuple à se réconcilier. La culture est un facteur de rassemblement de masse. Et je voudrais qu'à travers cette culture-là, on peut briser nos barrières ethniques, religieuses et tout, pour se mettre ensemble. Donc, nous sommes fédérateurs de bonnes vibrations et je crois qu'on veut partager ces vibrations-là avec la population. C'est pourquoi on a trouvé que la musique pouvait être un outil important pour amener la paix en Côte d'Ivoire et partout dans le monde.
Magic System est le groupe star de la musique ivoirienne qui, depuis son succès premier Gaou, enchaîne les tubes en Afrique et en Europe.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, prix des médicaments en Afrique et la polémique à Pretoria autour de la réforme des brevets en vue de fabriquer des médicaments génériques. L'industrie pharmaceutique évoque ses lourds investissements dans la recherche. Vos commentaires sur la page Facebook de Washington Forum. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h10 sur la VOA.
Le service francophone de la Voix de l'Amérique sur satellite. Nos émissions sont désormais disponibles sur Arabsat, 26 degrés Est, fréquence de réception 11 938 GHz. Effectuez une recherche sur tous les canaux pour retrouver vos émissions habituelles, la VOA, avec vous, partout.
Le Monde, aujourd'hui, sur la Voix de l'Amérique. L'actualité sportive tout de suite avec Timothée Donangmaï qui nous rejoint au studio 13. On va parler de football africain. On connaît désormais l'affiche des barrages de la Coupe de la Confédération. 8 matchs dans lesquels ont été reversés les clubs éliminés de la Ligue des Champions. Bonsoir Timothée.
Bonsoir Chérubin. Il y aura donc un choc à Bamako. C'est l'AS Real et le Djoliba qui se rencontrent. Et ce sera donc un derby malien. Joint par la Voix de l'Amérique, le secrétaire général du Djoliba explique que ce sera avant tout une fête pour le football malien, notamment pour les supporters. Nicolas Pinot a joint Mamadou Issa Diarra, c'est le secrétaire général du Djoliba.
Cet adversaire est coriace et sérieux. Le Real de Bamako, c'est une équipe qui a une longue histoire et une histoire glorieuse. Donc nous ne pouvons pas les prendre à la légère. Nous sommes conscients, nous pensons que nous avons nos chances aussi et nous sommes optimistes. D'abord, les deux équipes ont fait un bon parcours jusque-là. Dommage que ce soit que le tirage au sort nous ait opposés. Il va falloir qu'il y ait un vaincu et un vainqueur. Mais la pioche du football malien sortira toujours vainqueur. Et ça va être une fête du football. Les supporters des deux équipes vont venir. Chacun va encourager son équipe. Et j'espère que ça va être une belle fête pour tout le monde. Ça permettra encore de rehausser le football malien.
Mamadou Issa Diarra, secrétaire général du Djoliba. Les Égyptiens d'Al Ahly, double champion d'Afrique en titre, sortis prématurément de la C1, devront se reprendre contre les Marocains de Difa Hassani El Jadida. Les Ivoiriens semblent avoir été épargnés, mais l'ASEC devra se méfier de son déplacement en Afrique du Sud chez les Kaizer Chiefs, tout comme le CO Sport face au Bayelsa United du Nigeria. Les Congolais de Dolisie accueilleront, eux, les Ghanéens de Madema. Le Oroya AC d'Amara Traoré affrontera l'ES Sahel de Tunisie. L'autre représentant tunisien, le CA Bizertin, fera face au Nkana FC de Zambie. Enfin, les Camerounais du Coton Sport de Rumdiadja à Garoua affronteront le Petro Atlético.
Une zone que tu connais bien, Timothée.
Eh oui, c'est mon quartier là-bas à Garoua.
Début aussi des quarts de finale de la Ligue des Champions dans quelques minutes. Ou plutôt, ça a déjà commencé.
Eh oui, donc il y a Manchester United qui joue contre le Bayern de Munich, FC Barcelone, Atlético Madrid. Et demain, chérubin, on aura Real Madrid, Dortmund. Et le choc PSG-Chelsea au Parc des Princes. Et comme prévu, Samuel Eto'o manquera le match. Le Camerounais qui est blessé ne sera donc pas de la partie.
Nous allons finir en basket. La NBA, quelques résultats de la nuit d'hier.
San Antonio a décroché sa 18e victoire consécutive aux dépens des Pacers d'Indiana, 103 à 77. Et ces derniers ont perdu leur place de leader de l'Est au profit du Heat de Miami, vainqueur des Raptors de Toronto, 93 à 83.
Une nouvelle qui ne me dérange pas du tout. Merci Timothée Donangmaï.
Pas de quoi.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple, laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. A très vite, sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
C'est maintenant l'heure de notre page musicale avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane. P-Square ne s'arrête plus. Depuis la sortie de l'album The Invasion, c'est vraiment l'invasion des USA. Chop My Money, tournée en featuring avec Akon. La collaboration est pas n'importe laquelle, mais un featuring avec le boss de Maybach Music. J'ai nommé Rick Ross, dans les titres Beautiful Onyinye.
So sad because I was all alone. Was so bad. And there she go. She touched my heart and said, "The best in a nose go." Hey, was so glad. The way she keeps me smiling, it brings me joy. She proves this love in its real. Within my heart, there's no. What a beautiful onyinye, nenye makagi, so you want I can fly away.
Voilà, P-Square, les frères jumeaux hein, du Nigeria, ont signé sur le label Convict Music de Akon. Et ils ont aussi choisi de collaborer avec Rick Ross pour faire de ce titre un tube international.
Oui, donc Morgan, c'est la P-Square, ces jumeaux nigériens qui font du tabac sur la scène internationale. Quand j'écoute P-Square, j'entends en fond sonore des décennies de musique nigériane. J'entends là les Oriental Brothers Band ou bien Sonny Okosun ou encore la Juju Music de King Sonny Ade ou bien encore Chief Ebenezer Obedo, tous ces... C'est pionniers de la musique nigériane.
Est-ce que c'est Timothée qui parle là
qui ont...
Oui, bon, mais Timothée
qui ont beaucoup influencé, et oui, qui ont visiblement influencé P-Square et quiconque connaît bien la musique nigériane peut s'en rendre compte. Hein.
C'est de l'éclectisme caché. Merci Tim. Et il faut rappeler que Roger Muntou est avec nous tous les jours. Hein.
Tous les jours à 20h temps universel dans le RM Show.
Et c'est déjà la fin de notre rendez-vous quotidien, Morgane Guériac.
Et oui, ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. C'était Georges Léonard Sagnot à la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. C'était Morgane Guiriec.
Chez Robin Dorsil. Et il faut remercier aussi notre ami Nick Ivanov à la console technique.
À demain.